Bye bye.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des co-signataires de la tribune pour alerter sur la situation explosive dans les services de réanimation d'Île-de-France. Nous devrons bientôt trier les patients, dit-il. Le professeur Frédéric Anne est chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et notre invité. 18h30, les polémiques du jour. On reviendra sur la controverse déclenchée par Audrey Pulvar sur la question des réunions non mixtes. 19h15, la carte blanche de l'écrivain Philippe Besson. Xavier Bertrand, en 2022, il n'y croit pas. Il nous dira pourquoi. Et puis 19h20, le grand débat du Club des Idées, comme chaque soir, consacré à la folie des paris en ligne. Les chiffres sont records et de plus en plus les jeunes s'y mettent. Paris sportifs, hippiques et poker en ligne, c'est le nouveau phénomène. Alors certains y font fortune, on verra comment d'ailleurs. Et attention aussi aux addictions, on en parlera avec un addictologue car là-dessus il y a danger. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est un soulagement pour toutes les victimes, un laboratoire a été reconnu responsable, a été condamné. Donc je suis extrêmement heureux de ce long parcours qui aboutit à une condamnation.
Les laboratoires Servier reconnus coupables et condamnés donc. L'agence du médicament également, les victimes du Mediator, enfin reconnues.
Oui, épilogue de 10 ans de procédure, Gladys Laffitte était à l'énoncé du jugement.
Il faut fermer de toute urgence toutes les écoles de Seine-Saint-Denis. On entendra l'appel de Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, élu de ce département.
Comment l'exécutif et le président de la République se préparent-ils justement à faire face à la progression du virus, alors qu'en réanimation, le pic de la deuxième vague est désormais dépassée.
Quelle stratégie? Quel calendrier? Emmanuel Macron mise tout sur la vaccination, mais ce sont les chiffres qui détermineront la suite, nous dira Louis Dragnel.
Ça y est, le trafic va pouvoir reprendre dans le canal de Suez. Le navire qui bloquait le passage depuis une semaine a été dégagé.
Et puis quand une dame respectable improvise un scénario digne de la grande évasion pour s'enfuir de sa maison de retraite, on vous racontera. La Bourse de Paris a franchi ce soir le seuil des 6000 points à 6015 points en hausse de 0,45%.
La météo, Anissa Dadi, bonsoir.
Bonsoir Julien.
Un petit goût d'été demain, ça fait du bien.
Oui, parce que la journée de demain aura le goût d'une journée de début juin, côté température et côté soleil qui va briller sur toute la France, avec une petite fraîcheur au bord de la Méditerranée. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc la fin d'un très long combat judiciaire, l'épilogue dans le procès du Mediator. Ce médicament antidiabétique prescrit pendant des années comme coupe-faim est tenu pour responsable de centaines de décès.
Et on le disait, les laboratoires Servier ont donc été condamnés pour tromperie aggravée, homicide et blessures involontaires. Le groupe pharmaceutique devra donc verser 2 700 000 euros d'amende. L'Agence nationale de sécurité du médicament devra, elle, s'acquitter de plus de 300 000 euros.
Les victimes et leurs familles, bien sûr, attendaient ce moment depuis des années. Leur avocat, maître Jean-Christophe Coubris, il est l'avocat de plus de 2000 parties civiles.
C'est un soulagement pour toutes les victimes. Un laboratoire a été reconnu responsable, a été condamné. Donc je suis extrêmement heureux de ce long parcours qui aboutit à une condamnation. La sanction déjà d'un laboratoire, c'est important. Les sommes qui ont été allouées, même si elles ne sont pas aussi élevées que ce que l'on souhaiterait, elles sont cohérentes. Le temps aujourd'hui, il est à la satisfaction de la condamnation, même si les peines et les sanctions pénales sont aussi modérées. Mais c'est peut-être ça aussi, une justice modérée, cela a un sens. C'est à nous de faire passer ce message auprès des victimes. Le combat était tellement difficile de toute façon.
Et c'est vous, Gladys Laffitte, qui avez recueilli ce témoignage de maître Coubris, avec ce sentiment, on l'entend un peu mitigé, entre soulagement et déception. Pourtant, le tribunal a eu des mots durs et sans ambiguïté contre les laboratoires Servier.
Oui, ils ont commis une fraude d'une ampleur considérable et inédite, je cite. Ils ont fragilisé la confiance dans le système de santé parce qu'ils connaissaient les risques du Mediator depuis de très nombreuses années. Et pourtant, les laboratoires Servier ont maintenu sa commercialisation envers et contre tout, a dit la présidente. Résultat, ils ont trompé les consommateurs de ce médicament. Les mots ont été durs aussi envers l'agence du médicament, qui n'a pas joué son rôle de police sanitaire. Sa directrice, Christelle Ratigné-Carbonneil, prend acte de ce jugement.
Ceci a été bien jugé et nous avons concouru à la manifestation de la vérité et de pouvoir assumer notre responsabilité d'établissement public. La loi de 2011 a créé l'agence, une agence qui est différente, pour qu'en effet un tel drame ne puisse se reproduire.
Alors, hormis ces condamnations à des amendes pénales, les laboratoires Servier vont devoir verser plus de 180 millions d'euros d'indemnisation aux victimes, tout comme l'ex-bras droit de Jacques Servier, qui devra lui aussi payer des millions d'euros aux parties civiles. Il a été condamné à 4 ans de prison avec sursis.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1 qui a suivi donc ce jugement.
18h03, c'est l'autre grand titre de l'actualité ce soir, le nouveau protocole scolaire qui oblige depuis aujourd'hui les classes à fermer immédiatement dès qu'un seul cas positif est détecté.
Et c'est valable dans les écoles, les collèges, les lycées, des 19 départements confinés. Parmi ces départements, celui où le virus circule le plus, eh bien c'est la Seine-Saint-Denis.
Oui, Jean-Christophe Lagarde, qui est président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis, a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de fermer dès à présent tous les établissements de son département.
Dans les différentes parties du département de la Seine-Saint-Denis, un des plus touchés de France, il y a plus de circulation virale dans les écoles que dans la population. Les écoles sont en train de devenir un accélérateur de la circulation du virus. Je comprends parfaitement et je partage le fait que l'école soit indispensable à nos enfants. Mais faire en sorte que pendant un mois, on casse les chaînes de contamination scolaire me paraît indispensable et urgent. Et j'ai écrit au président de la République en lui disant « Si vous laissez le virus continuer à circuler dans les écoles pour ne pas faire perdre 8 jours d'enseignement aux enfants, alors vous prenez le risque majeur que les enfants rentrant chez eux contaminent leur famille. Or, le système de réanimation est déjà explosé. Ça nous envoie droit dans le mur. Il est temps, Monsieur Macron, que vous arrêtiez ce mécanisme qui est mortifère. »
Jean-Christophe Lagarde avec Johanna Chabas.
La situation dans les établissements scolaires fait évidemment partie des facteurs scrutés de très près par le président de la République qui pourrait avoir à prendre de nouvelles mesures dans les prochains jours. D'autant que l'on a appris ce soir que les chiffres des malades en réanimation ont encore augmenté. On est à 4974 patients en réa, soit plus qu'au pic de la deuxième vague. Louis Dragnel, où le président en est-il actuellement de sa réflexion ?
Eh bien, s'agissant des écoles, c'est un vrai casse-tête pour le gouvernement qui est partagé entre la ligne qui pousse pour une fermeture dans les départements les plus touchés par l'épidémie et celle de ceux qui, comme Emmanuel Macron, considèrent que la stratégie actuelle est la bonne. C'est-à-dire fermeture des classes au cas par cas dès qu'un élève positif est détecté. Pour les vaccins, le chef de l'État est persuadé qu'après le raté du lancement de la campagne, la vaccination ne sera bientôt plus un problème, surtout avec la livraison dans les prochains jours de 3 millions de doses qui permettront de dépasser l'objectif des 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril. D'ailleurs, Emmanuel Macron était en déplacement cet après-midi à Créteil pour voir de ses propres yeux comment l'assurance maladie contacte les plus de 70 ans qui n'ont pas encore été vaccinés. Mais derrière cet optimisme se cache quand même le problème de la saturation hospitalière et des appels au reconfinement de beaucoup de médecins. À ce stade, Emmanuel Macron n'a encore rien décidé et une certitude, il n'y aura pas d'allègement des mesures actuelles, comme d'ailleurs dans la plupart des pays de l'Union européenne. Le chef de l'État sera définitivement fixé demain soir sur ce qu'il décidera une fois qu'il aura les derniers chiffres consolidés des contaminations et des admissions en réanimation. Une décision qui doit ensuite être discutée en Conseil de défense sanitaire mercredi. Enfin, nous serons tous fixés sur notre sort cette même journée de mercredi ou jeudi soir, lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement sur la crise sanitaire.
Donc jeudi soir, au plus tard, merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Et dans ce contexte, un chiffre qui fait rêver, porteur d'espoir en tout cas. Aucun mort du Covid hier à Londres, ça n'était pas arrivé depuis 6 mois.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h08, la suite du journal. C'est donc la fin d'un feuilleton qui aura duré près d'une semaine. Le trafic maritime dans le canal de Suez va enfin pouvoir reprendre.
Et oui, parce qu'après plusieurs heures de suspense aujourd'hui, le cargo Ever Given qui bloquait, vous le savez, totalement le canal et donc la circulation maritime, eh bien ce cargo a été remis à flot, Clément Le Saffre.
Oui, enfin, j'ai envie de dire, après avoir bloqué le canal de Suez pendant 6 jours, le porte-conteneur de 400 mètres de long a rallumé ses moteurs cet après-midi. Il a fallu dégager quand même 30 000 mètres cube de sable pour le sortir de la rive et l'aide de 13 remorqueurs pour le remettre dans le sens de la marche. Le trafic a donc repris, une libération pour les quelques 400 cargos bloqués de part et d'autre du canal. Il faudra 3 jours pour qu'ils puissent tous traverser et pour lisser le trafic, mais un peu plus longtemps pour que le transport maritime mondial s'en remette, selon Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime.
Ça a des conséquences un petit peu, notamment pour les conteneurs qui sont très cadencés, sur des départs qui ont peut-être été retardés, des détournements vers l'Afrique du Sud, le contournement. Donc on est sans doute sur un petit désordre dans la conteneurisation d'au moins 2 ou 3 semaines. Ça désorganise quelque chose qui est peut-être trop organisé, c'est-à-dire cette dépendance à un approvisionnement très régulier pour des choses qui sont quand même fabriquées à l'autre bout du monde.
Et à l'image du gigantisme de l'Ever Given, cette semaine perdue a engendré des pertes colossales pour l'économie mondiale. Chaque jour de blocage a coûté entre 5 et 9 milliards d'euros.
Merci beaucoup en tout cas. Clément Le Saffre pour toutes ces précisions. Aux États-Unis, le procès du policier blanc Derek Chauvin, jugé pour la mort de George Floyd, est entré aujourd'hui dans le vif du sujet. Après 3 semaines consacrées à la sélection des jurés, la cour doit notamment visionner l'insoutenable vidéo. C'est 8 minutes et 46 secondes pendant lesquelles le policier a maintenu son genou sur le cou de sa victime suffocante. Audience retransmise en direct. La tension est palpable cet après-midi à Minneapolis. On sera sur place dans notre journal de 19h. En Birmanie, nouvelle journée de manifestation après un week-end de sanglants. Plus de 100 personnes, dont des enfants, tués samedi. L'Union européenne, le chef de l'ONU, le président américain condamnent une escalade de violence inacceptable. Et puis la société spatiale SpaceX se prépare au possible lancement de son prototype de fusée Starship depuis son site du sud du Texas. Vous savez que SpaceX, fondé par le fantasque milliardaire Elon Musk, espère enfin réussir un vol d'essai de sa fusée interplanétaire. Les 3 premiers tests se sont achevés par une explosion spectaculaire.
Et puis c'est une histoire peu banale qu'on va vous raconter maintenant et qui a pour point de départ le vol d'un camion de pompiers ce week-end dans l'Ain, non loin de Villefranche-sur-Saône.
Et ce qui interpelle surtout dans cette affaire, Justin Morin, c'est l'identité de la voleuse.
Oui, effectivement, c'est une dame de 65 ans, résidente d'une maison de retraite. Samedi soir, les pompiers s'y rendent pour une intervention en urgence. Ils se garent à l'intérieur de l'établissement et, comme souvent, laissent les clés sur le contact. Sauf que ce soir-là, cette résidente de 65 ans semble bien décidée à quitter les lieux. Quand les pompiers reviennent, leur camion a disparu. Elle s'est échappée à bord du camion rouge et file sur une départementale vers son ancien domicile. Les gendarmes sont appelés en renfort pour la prendre en chasse. Alors heureusement, toutes ces ambulances sont géolocalisées, donc ils n'ont aucun mal à la retrouver. Mais la fugitive parcourt quand même une quinzaine de kilomètres avant d'être stoppée. Le but, c'était surtout de ne blesser personne. La résidente a ensuite été prise en charge, d'abord à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône pour un état dépressif. Puis elle a été raccompagnée dans sa chambre à la maison de retraite.
Voilà les précisions de Justin Morin, du service police-justice d'Europe 1.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 évidemment pour le rappel des titres. La météo avec Anissa qui nous annonce rien de plus, rien de moins qu'une nouvelle belle journée au programme demain, même un peu plus ensoleillée et encore un peu plus chaude.
Exactement, avec dès le lever du jour, Julien, un ciel très dégagé, très ensoleillé dès demain matin sur tout le pays. En fait, c'est dans le sud, du golfe du Lion jusqu'à la côte d'Azur, c'est là que nous avons des entrées maritimes qui apportent, vous le savez, hein, vous êtes habitués si vous nous écoutez dans le sud. Ces entrées maritimes apportent des nuages bas, de la grisaille et puis une certaine humidité. Et en plus de ça, le vent d'autant souffle jusqu'à 60 km/h demain. Dans l'après-midi, ces entrées maritimes restent tenaces. Hein. Les nuages sont bien présents, notamment sur le Roussillon, les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Azur et la Corse et partout ailleurs. C'est l'été. Il faut savoir que demain, en termes d'ensoleillement et de température, ça sera une journée digne d'un début juin.
Oui.
Donc on a vraiment de l'avance et il va falloir en profiter. Les températures, elles sont plus fraîches en Provence demain matin avec 2 à 5 degrés. Le retour des gelées matinales dans les Ardennes et puis nous aurons 5 à 10 degrés partout ailleurs. Dans l'après-midi, alors c'est plus frais dans le sud avec 17 degrés à Perpignan, 18 à Montpellier et Dunkerque, 19 degrés pour Nice, 20 à Marseille et Brest, 22 degrés pour Dijon et Lille, 24 à Paris, Lyon et Metz, 25 pour Limoges, 26 degrés à Bordeaux et 27 la maximale pour Mont-de-Marsan.
Bon, quand vous dites qu'il va falloir en profiter, moi j'entends derrière, ça veut dire que ça ne va pas durer.
Ça va durer jusqu'à la fin de la semaine.
Bien.
La semaine prochaine, ça va vraiment être une autre limonade.
Le week-end prochain, ça chutait assez sérieusement.
Puis alors la semaine prochaine, c'est la cata.
Bon,
mais
on n'en parle pas encore. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure, 18h30.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h17, il est responsable du service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny et du SAMU de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir professeur Frédéric Annet.
Bonsoir.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. D'abord, peut-être un mot sur la situation ce soir dans vos services. Est-ce que les admissions continuent de grimper ?
Alors écoutez, le problème n'est pas un afflux d'admissions. Les admissions, c'est toujours un rythme constant d'environ 10-15 patients Covid par jour qu'on voit aux urgences et qu'on doit hospitaliser, certains en réanimation, certains en hospitalisation classique. Le problème, et c'est très différent de la première vague, le problème c'est que ce flux il est constant et ça fait déjà plusieurs mois qu'on le subit et on finit par saturer nos lits à l'hôpital, nos lits d'hospitalisation complète, conventionnelle et nos lits de réanimation.
Bien. Vous êtes l'un des co-signataires, je le disais tout à l'heure, dans le sommaire de cette tribune parue hier dans le journal du dimanche, pour alerter évidemment sur la saturation des hôpitaux franciliens. Est-ce qu'on est aujourd'hui au-dessus de ce que vous avez connu il y a un an lors du premier confinement ?
Alors non, et on ne sera jamais dans la même situation que ce qu'on a connu il y a un an, car les, si vous voulez, c'est complètement différent. Ce que l'on vit actuellement, c'est-à-dire la saturation de nos services de réanimation et d'hospitalisation classique, c'est, si vous voulez, en chiffres inférieurs à ce que l'on a vécu il y a un an, mais il y a un an, on était dans un confinement strict, les patients ne venaient plus à l'hôpital, et donc il était facile pour nous, pour l'hôpital, de se transformer en, si vous voulez, en hôpital Covid+, puisqu'on n'avait plus de patients non-Covid qui venaient à l'hôpital. Le confinement strict faisait qu'il n'y avait plus de traumatologie, et donc la difficulté actuelle, c'est d'accueillir tous les patients, à la fois notre file de patients Covid, qui ne s'arrête pas et qui a tendance à augmenter, et les patients non-Covid qu'il faut aussi hospitaliser, qu'il faut aussi réanimer. Et la somme des deux fait que ben, l'hôpital déborde actuellement. Oui.
Professeur Anne, pour que nos auditeurs comprennent bien ce à quoi vous faites face, comment est-ce que tout cela se traduit, cette saturation concrètement à l'hôpital Avicenne dont vous dirigez les urgences? Ce sont des patients dans les couloirs, des urgences saturées, un épuisement des soignants? Comment tout cela se manifeste-t-il?
Il y a un peu de tout ça. D'abord, un épuisement du personnel. Oui, le personnel est fatigué. Il y a un sentiment de lassitude. On ne s'est jamais complètement remis de cette première vague qui a été quelque chose de foudroyant et dans un temps très bref, alors que maintenant, on subit cette troisième vague sur un temps qui est beaucoup plus long. Et des services qui sont saturés. Ça se traduit comment en pratique? Nos patients qui viennent aux urgences, on a beaucoup de mal à leur trouver un lit d'hospitalisation et on est obligé de faire beaucoup de transferts. C'est-à-dire, ce week-end, je suis revenu à l'hôpital parce qu'on avait 50 patients Covid à dispatcher dans différents hôpitaux en Île-de-France et dans la région parisienne et dans le département. Oui. On y arrivait, mais on sent que le système est complètement tendu, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à trouver des lits pour ces patients.
Alors justement, vous dites, professeur Frédéric Annet, vous dites, dans 15 jours, nos capacités seront dépassées, on sera contraint de faire un choix dans nos patients. Ça veut dire quoi? Faire un choix et sur quels critères? Concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, parce que les prévisions actuelles et les chiffres qu'on nous donne de nouvelles contaminations, et particulièrement en Seine-Saint-Denis où on a le record de France, on a l'expérience quand ces contaminations augmentent énormément, on sait que 15 jours après, ces patients, une partie de ces patients seront malades, auront besoin d'oxygène, auront besoin d'hospitalisation. Donc, ils vont arriver à l'hôpital. Or, l'hôpital est plein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir faire un choix. On commence déjà à le faire, c'est-à-dire qu'on déprogramme des activités qu'on le considère non urgentes. Mais cette déprogrammation, si vous voulez, ça veut dire qu'on ne va pas s'occuper, on ne va pas prendre en charge des patients qui normalement auraient été pris en charge à l'heure actuelle. Et donc, il y a forcément une perte de chance. Bien. Et ce choix-là, il est difficile pour un praticien.
Mais vous rejoignez, par exemple, pour être tout à fait clair, ce que disent certains de vos collègues aujourd'hui dans une autre tribune signée dans le journal Le Monde, vous avez peut-être eu l'occasion de la découvrir. Ils disent « il faudra choisir qui peut vivre et qui va mourir ». Ce sont en ces termes-là que va se faire le choix des patients?
Alors, aujourd'hui, ce n'est pas encore cette situation, puisque nous déprogrammons des patients qui n'ont pas de pathologie urgente, mais il y aura un prix à payer. Ce prix à payer, on le verra plus tard. Par exemple, les cancers qu'on ne dépiste pas aujourd'hui, il y aura une surmortalité qu'on verra dans quelques années. Mais si tout le système est complètement saturé, il va falloir trouver des critères pour savoir quels patients rentreront dans des réanimations et quels patients ne rentreront pas. Alors, on n'en est pas arrivé à ce niveau-là, mais les courbes actuelles, les prévisions que nous donnent les modélistes, à la fois de l'INSERM et de l'Institut Pasteur, nous font assez peur, puisque ces prévisions liées au variant anglais, qui est, comme chacun sait, plus transmissible plus sévère, risque de nous faire déborder en termes de capacité de réanimation. Et c'est ce qu'ont voulu dire mes amis réanimateurs.
Bien. Vous en voulez aux politiques et au président de la République, d'abord, de ne pas avoir confiné en janvier dernier, comme le réclamaient beaucoup d'épidémiologistes et beaucoup de médecins. Et puis aussi à la stratégie à laquelle semble être attachée aujourd'hui l'Élysée, qui semble vouloir pousser les murs, continuer à gérer la crise tant bien que mal comme on le fait aujourd'hui, sans reconfinement strict au niveau national. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous en voulez un peu aux politiques?
Alors, pas du tout. Moi, je suis un soignant, je suis quelqu'un qui est à l'hôpital. Je suis ici, et c'est le sens de cette tribune, pour donner l'alerte, pour informer la population, pour informer le gouvernement de l'état sanitaire, de l'état de nos capacités hospitalières. Le politique, lui, il doit décider. Il doit décider de renforcer ou non un confinement, parce que le confinement, on est tous conscients, ça a des conséquences délétères, des conséquences politiques, des conséquences économiques, des conséquences éthiques, et c'est à lui de trouver cet équilibre. Nous, on est là pour lui dire, attention, l'hôpital déborde, prenez cet élément, prenez ce constat dans votre décision de renforcer ou non le confinement, mais ne faites pas prendre aux médecins le rôle qui n'est pas le leur, qui est de décider d'un confinement. Le politique décide sur nos éléments en termes sanitaires.
Le président de l'UDI, que vous connaissez peut-être, Jean-Christophe Lagarde, qui est aussi député de la Seine-Saint-Denis, a écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de fermer tous les établissements scolaires de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous adhérez à cette proposition ?
Non, je pense que l'école est le dernier rempart, et surtout en Seine-Saint-Denis, c'est le dernier élément sur lequel il faut agir pour freiner cette épidémie. Pourquoi c'est le dernier élément ? Parce que fermer les écoles, et surtout dans un département comme le nôtre, qui est un des départements les plus pauvres de France, c'est renforcer les inégalités, c'est renforcer l'échec scolaire, c'est renforcer, si vous voulez, même une espérance de vie, parce que les Américains ont fait des études, ils ont montré que quand on augmentait l'échec scolaire, on diminuait l'espérance de vie. Donc, si vous voulez, les conséquences d'une fermeture, et je ne parle pas de la cantine, vous savez qu'en Seine-Saint-Denis, la cantine, c'est quelquefois le repas principal pour nos enfants. Donc, il y a des conséquences énormes. Donc, je pense que c'est le dernier rempart, les écoles. Mais là aussi, ce n'est pas aux médecins de décider. C'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. Moi, je suis simplement là pour sonner l'alerte, pour dire attention, on arrive à une limite de notre système capacitaire à hospitaliser les patients. Maintenant, prenez vos responsabilités.
Alors, professeur Frédéric Cannet, au-delà des mesures de confinement, est-ce que vous avez le sentiment aussi que tout est fait pour absorber ces patients ? Je vais vous poser des questions de Candide, pardon, mais ce sont des questions que se posent aussi les Français. Pourquoi, par exemple, ne pas faire venir des renforts d'ailleurs en France, des réanimateurs, du matériel ? On dit aussi que l'on pourrait réarmer le Val-de-Grâce, fermé depuis 3 ans. Est-ce que tout ça, ça serait possible ? On est en guerre, nous a dit le président de la République, et on a parfois le sentiment que les réponses depuis quelques mois ne sont pas celles d'un pays en guerre.
Alors, les surfaces, on les a. Le matériel, on l'a. Les lits, on les a. Tout ça, on les a depuis la première vague. Oui. Et on est richement doté en matériel.
On a suffisamment de lits.
Et on a les surfaces. Non, le vrai facteur limitant, et je le vis tous les jours quand j'essaye d'ouvrir des lits dans mon établissement, c'est le personnel spécialisé pour faire fonctionner ces lits de réanimation. Oui. Et ce personnel spécialisé, lors de la première vague, on a réussi, comme vous le dites, à le faire venir de la province. Actuellement, c'est beaucoup moins possible puisque toute la France est impactée par cette épidémie et les hôpitaux sont plus ou moins en tension et donc moins à même à nous amener du personnel en Île-de-France.
Et sur les formations, professeur, j'ai vu que 1000 formations sont en cours sur 3 semaines. Car pour une personne en réanimation, il faut 2 infirmières. Est-ce que ça peut vous soulager, ces formations accélérées ?
Exactement, c'est ce qu'on fait. On a plusieurs centaines d'infirmières qui sont en formation accélérée. On a fermé les écoles d'infirmiers anesthésiques et d'infirmiers tout court pour pouvoir venir nous renforcer et pour pouvoir ouvrir de nouveaux lits. Et on a aussi quelque chose qu'on utilise moins parce que ça a bien marché pour la première vague, c'est le transfert des patients en province. Actuellement, c'est beaucoup plus difficile parce que d'une part, les patients sont plus graves et d'autre part, beaucoup de familles refusent ce transfert.
Vous arrivez à trouver du temps pour dormir quand même, professeur ?
Oui, le problème, on arrive toujours à dormir. Bien sûr qu'il y a une charge de travail, mais vous savez, il y a une charge émotive aussi. La charge émotive, je l'ai vécue à la première vague, mais on était, si vous voulez, sous adrénaline. Il y avait une sorte d'excitation. C'était un virus nouveau. On sentait qu'on était les derniers soldats avant que l'hôpital s'écroule. L'hôpital ne s'est pas écroulé, mais on a combattu. Et le mot guerre et le mot médecine de guerre était le bon terme. Là, c'est différent. Les choses arrivent lentement. Il y a un sentiment de lassitude, de fatigue, et je vois bien de manque de motivation du personnel qui fait que c'est plutôt là de l'usure qu'on le ressent avec effectivement, vous avez raison, un sentiment où on en a vraiment marre de ce Covid.
Bien. Merci infiniment, professeur Frédéric Cannet. Bon courage à vous et bon courage à vos équipes, évidemment, pour la suite. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Le rappel des titres à 18h30 avec Isabelle Millet.
Et il y a actuellement 4974 malades du Covid en réanimation, soit davantage qu'au pic de la deuxième vague de l'épidémie. L'exécutif va-t-il renforcer les mesures ? Y aura-t-il de nouvelles annonces dans la semaine ? Impossible à dire pour l'instant. En tout cas, depuis ce matin, dans les 19 départements confinés, un seul cas de Covid-19 dans une classe entraîne entraîne sa fermeture. Casse-tête pour les proviseurs. Le jugement très attendu dans le procès du Mediator. Les laboratoires Servier reconnus coupables de tromperie aggravée, homicide, blessure involontaire. Condamné à 2 700 000 euros d'amende. L'ex numéro 2 du groupe condamné à 4 ans de prison avec sursis. L'Agence nationale de sécurité du médicament est-elle condamnée à plus de 300 000 euros d'amende. Le tribunal estime qu'elle a failli dans son rôle de police sanitaire et de gendarme du médicament. L'ouverture aujourd'hui de l'examen de la loi Climat. Elle s'appuie sur les propositions de la Convention citoyenne. Plus de 7 000 amendements déposés. Les détracteurs pointent un manque d'ambition. Et puis dans le canal de Suez, l'énorme porte-conteneur bloqué depuis une semaine a enfin été dégagé cet après-midi. Le trafic maritime mondial va donc pouvoir reprendre.
Merci Isabelle. On vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le grand journal. La météo, Anissa Dadi, le soleil brille et brillera encore demain.
Une très belle journée demain. En plus du masque, les lunettes de soleil seront obligatoires. Et ça, on aime bien. Avec, dès le début de la journée, un soleil radieux sur toute la France.
Sauf que ça fait de la buée. Ah, si vous avez remarqué, les lunettes de soleil avec le masque, c'est injouable.
Écoutez, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Seul au bord de la Méditerranée, nous aurons des entrées maritimes avec un ciel un petit peu plus gris et des nuages bas qui seront tenaces toute la journée, en particulier sur le Roussillon, en Corse et sur la Côte d'Azur. Et puis le vent d'autant qui souffle toujours jusqu'à 60 km/h partout ailleurs. C'est l'été, une journée digne du début du mois de juin, je vous le disais tout à l'heure. Alors côté température, on aura de la fraîcheur à l'est demain matin avec des petites gelées matinales, 2 à 10 degrés ailleurs. Et puis dans l'après-midi, c'est plus frais dans le sud avec 17 degrés à Perpignan, 19 à Nice et Quimper, 20 degrés à Marseille, 24 à Paris et Lyon et jusqu'à 27 degrés dans le sud-ouest.
Voilà, c'est l'été demain. C'est ce qu'il faut retenir.
Exactement.
Merci Anissa, on vous retrouve
à
19h également. À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
18h32, le débat des grandes voix du lundi avec ce soir mes côtés Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Marion Mour, bonsoir Marion.
Bonsoir.
Reporter au service politique du Figaro et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir Julien.
Alors on va revenir évidemment sur le bras de fer entre Emmanuel Macron et les médecins. On en parlait avec mon invité, le professeur Anne. Je voudrais d'abord vous entendre sur la polémique qui agite la politique depuis ce week-end, dont on parle depuis samedi maintenant, après les déclarations d'Audrey Pulvar, ancienne journaliste, candidate à la région Île-de-France, adjointe d'Anne Hidalgo, qui a défendu les réunions non mixtes et a suscité un tollé de critiques, on va en parler, venant de la droite, venant de l'extrême droite et venant d'une partie de la majorité. On écoute d'abord ses propos.
Groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses. Mais si il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., etc., ben, j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire.
Bien, c'est une maladresse ou c'est une conviction forte selon vous, Marion Mourgue ?
C'est une conviction qu'elle a. C'est pas la première fois qu'elle le dit. Elle l'avait déjà expliqué après la polémique sur l'UNEF et elle l'avait dit dans une interview en ligne. Donc c'est plutôt une conviction qu'elle a. Il peut y avoir en plus une stratégie politique derrière. Mais
vous pensez
puisqu'il y a des élections régionales et qu'elle pense aussi que c'est une manière de s'adresser aux jeunes et à toute une population qui peut ne pas se sentir représentée. Après, ça n'empêche pas que c'est ça va loin ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle semble dénoncer un propos pour condamner ce qu'elle-même semble subir. Et on passe aussi d'un modèle républicain qui est censé être universaliste à la défense d'une juxtaposition de communautés dans la République. Mmh. Donc, ce n'est pas une simple déclaration. Ça a une portée très loin.
Charles Villeneuve, même chose, conviction profonde de la part d'Audrey Pulvar ou alors une forme de maladresse ?
Non, mais moi j'adhère tout à fait à ce que vient de dire Marion Mourgue. Ce n'est pas la première fois qu'elle laisse percer pas seulement le bout de l'oreille, mais un commentaire de ce type. Et ça pose un problème politique, ne serait-ce que de celle dont elle dépend et qui l'a propulsée à la candidature quand même de la principale région française, l'Île-de-France. Et elle est gênante. D'ailleurs, ceux qui ne se sont pas exprimés, c'est une partie du Parti socialiste, justement parce qu'ils sont gênés, je pense, parce que cette déclaration est gênante, pas seulement pour la maire de Paris, mais aussi évidemment pour Olivier Faure et même Manuel Valls, qui est toujours à gauche. Il l'a clamé encore ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Et il a bien dit, de toute façon, qu'il y a deux gauches finalement irréconciliables et que lui faisait partie de cette gauche qui désapprouvait ce type de déclaration.
Oui, alors on va l'écouter justement, Manuel Valls. Est-il d'ailleurs encore socialiste ? C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, il se revendique toujours de gauche et c'est vrai qu'il disait ceci.
Comment être efficace dans la lutte contre le racisme et les discriminations ? Comment on le fait ? En parlant clair. toujours, et pas en soutenant des réunions qui sont des réunions racialisées et qui précisément légitiment ce concept de race. Pour parler du racisme, donc il faut être noir ou d'une couleur. Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être juif. Ça c'est un naufrage politique.
Bon, Jean Garrigue, naufrage politique et culturel a dénoncé ce matin Manuel Valls.
Écoutez, il y a toujours eu plusieurs gauches. Elles ont souvent arrivé à des compromis autour notamment des enjeux sociaux, des enjeux économiques, parfois même des enjeux sociétaux.
Oui.
Et c'est vrai que cette pomme de discorde du racialisme, de l'indigénisme, du décolonialisme, qui sont les pistes suivies aujourd'hui par une partie de la gauche, effectivement, à mon sens, elle donne assez raison à Manuel Valls, non pas tant sur le fond, je ne veux pas juger, mais sur le fait qu'effectivement, il y a deux gauches irréconciliables. Parce que cette piste-là, qui entraîne une partie de la gauche, notamment du côté de la gauche, du Parti Socialiste, des écologistes,
oui,
de la France Insoumise, cette piste-là les écarte véritablement de, oui, ce qu'est l'universalisme républicain.
Alors, on va en parler de la question de génération, parce qu'il y a peut-être aussi une question de génération entre ces deux gauches. On en parlera dans quelques secondes. Je voudrais simplement, puisque tout le monde est d'accord, je vais me faire l'avocat du diable, Marion Mourgue, reprendre ce que disait par exemple Hakim El-Karoui, grand spécialiste de l'islam qu'on ne peut pas accuser de complaisance. Alors, tout à l'heure, il a dit ceci, tout ça ne met pas non plus la République en péril, dit-il, et finalement, ce qui peut fonctionner pour les femmes peut peut-être fonctionner pour les gens de couleur et d'origine étrangère. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ?
Qu'on met aussi le doigt dans un engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où...
Il entend par là qu'on fait bien des clubs de femmes.
Oui, mais à partir du moment où on autorise de plus en plus de communautés les unes à côté des autres,
oui,
on enlève la possibilité d'un débat et de dialogue aussi,
oui,
entre tous les Français. L'idée, c'est quand même que tout le monde arrive à faire nation et qu'il y a une sorte de projet de société commun. Là, on est de moins en moins dans cette communauté, mais au contraire dans la division. Et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, mais c'est quand même très surprenant qu'Anne Hidalgo n'ait pas pris la parole, parce que c'est elle qui souhaitait...
Elle va peut-être le faire.
On sent qu'il y a quand même une gêne, c'est-à-dire que c'est elle qui a souhaité la candidature d'Audrey Pulvar, et c'est elle qui avait montré du doigt les écologistes en disant qu'il y avait un problème avec la République, qu'il y avait une ambiguïté.
Un problème de rapport à la République, elle avait
et donc
dénoncé.
Là, on sent bien que c'est un débat très compliqué au sein de la gauche, parce qu'il y a évidemment la perspective de la présidentielle et de l'unité de la gauche pour réussir
bien
à l'emporter.
Charline, vous réagissez dans quelques secondes. On balance la pub et on se retrouve dans un instant. Tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite du débat des grandes voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, et Jean Garrigue, l'historien, et on continue de parler cette polémique suscitée par Audrey Pulvar, ancienne journaliste, candidate à la région Île-de-France, adjointe d'Anne Hidalgo, qui a défendu les réunions non mixtes. Je voudrais votre réaction, Charles Villeneuve, sur cette histoire d'analogie avec les clubs de femmes, par exemple, ou les clubs de les associations pour femmes battues dans lesquelles il y a uniquement des femmes. Certains disent que c'est un peu pareil, en fait. On peut faire des clubs pour gens de couleur parce qu'ils sont victimes de discrimination, au même titre qu'on peut faire des clubs ou des associations réservées aux femmes.
C'est un argument intelligent. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il peut nous mettre en porte-à-faux. Parce que c'est vrai que ça se passe aussi comme ça. Mais il n'empêche que les Blancs ont prié de se taire, c'est la revendication d'un statut victimaire au profit de la population d'immigrés et au détriment du système républicain,
oui,
qui est jugé discriminatoire.
Oui.
Et c'est en cela que c'est dangereux, parce qu'il est bien évident que ça va s'étendre. Que ce sera l'une des... Et c'est pour ça que Mme Hidalgo, pour l'instant, prend son temps avant de répondre. Peut-être qu'elle ne répondra pas, peut-être qu'elle répondra. Mais il ne faut pas oublier que la maire de Paris, comme Olivier Faure, évidemment, qui est le leader du PS, ont pris leur distance avec l'indigénisme, avec le racialisme,
Olivier
avec le
Faure
communautarisme.
Olivier Faure a eu un propos plus mesuré puisqu'il a soutenu Audrey Pulvar depuis...
Oui, mais non, il l'a soutenu en expliquant que...
Absolument. Oui, oui, mais il la soutient quand même. Jean Garrigue,
oui,
je voudrais faire une autre analogie pour tenter d'avancer. Je reprends mon exemple avec Hakim El-Karoui, grand spécialiste de l'islam, qui est le fondateur du club 21e siècle, vous savez, qui est un club qui vise à promouvoir les minorités. Ça n'a jamais posé problème, alors que c'est constitué, je crois, à 95% de gens d'origine étrangère, et c'est revendiqué comme tel.
Mais comme le disait Charles, l'argument en lui-même, il est valable. Le fait que des minorités se regroupent pour parler, pour faire part de leurs expériences victimaires, c'est quelque chose qui peut être tout à fait légitime. Le problème, c'est que derrière ça, il y a un problème d'absence de liberté d'expression et d'exclusion de l'autre, de la parole de l'autre. Et on l'a vu à travers toute une série d'événements, ce qui est arrivé aux enseignants de Grenoble, par exemple, les deux enseignants stigmatisés pour leurs idées.
Ouais.
Non pas parce qu'ils avaient avaient dit des choses catastrophiques, parce que leurs idées ne cadraient pas tout à fait.
C'est pas tout à fait pareil, là, parce que c'est une idée d'essentialisme. Alors, ceux qui entendent ce concept semblent bien le comprendre. L'essentialisme, ça veut dire d'où tu parles. Il faut être concerné au premier plan par le sujet pour pouvoir en parler. Donc, si tu n'es pas victime de discrimination, tu n'as pas le droit de parler de discrimination.
Oui, mais c'est ça. Hein. C'est bien cela, c'est bien le problème. C'est l'essentialisation. Je veux dire, dans une société qui n'est pas communautaire comme la nôtre, vous ne pouvez pas essentialiser celui qui est différent de vous. Nous sommes tous des citoyens, nous devons avoir à part égale voix au chapitre, voix au dialogue. Je voulais dire une deuxième chose, c'est ce qui est intéressant à propos alors, des gauches, c'est qu'on voit bien que la césure, dans les réactions par rapport à cette crise-là, la césure passe à travers plusieurs familles.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez au Parti Socialiste des gens qui critiquent très clairement l'attitude d'Audrey Pulvar, d'autres qui sont plus consentants. C'est pareil chez les écologistes. On voit bien qu'il y a des lignes de fracture.
Alors, j'en reviens à la question que je me posais tout à l'heure, Marion Mourgue. Est-ce que ce n'est pas plutôt qu'un problème de courant, un problème de génération? Une gauche qui est divisée par des mouvements de ce type depuis plusieurs années, mais d'un côté, il y a la gauche historique, la gauche de Jaurès, en somme, qui est sur un modèle laïcard que défend Manuel Valls depuis bien longtemps, et aujourd'hui, une jeune génération qui est sur un autre logiciel. C'est l'archipélisation de la gauche, mais non pas tant par les courants que par la génération. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Marion Mourgue?
Je ne suis pas sûre que ce soit une question de génération, parce qu'à la limite, Audrey Pulvar et Manuel Valls sont à peu près la même génération et ont des positions fondamentalement opposées. Donc,
mais Audrey Pulvar, dans le même temps, défend une approche universaliste. Alors, là, ça va plutôt dans le sens inverse, mais jusqu'à présent, elle défendait plutôt une approche universalisme de la société.
C'est pour ça qu'on peut imaginer peut-être qu'il y ait une visée politique derrière, du fait de l'élection et du fait aussi de... la candidature de Valérie Pécresse, qui est assez en puissance en face, et donc il faut exister. Mais donc, encore une fois, non, je ne pense pas que ce soit une question de génération, et sinon ce serait, je pense, dramatique si c'est une question de génération, parce que ça voudrait dire que de plus en plus, on aura des communautés très puissantes.
Alors c'est vrai qu'Anne Hidalgo, pour l'instant, n'a pas réagi, et on le répète, elle avait effectivement critiqué les écologistes qu'elle avait décrits comme ayant un problème de rapport à la République. On se souvient de cette déclaration, parce que ça avait frappé les esprits, hein. C'était une déclaration très forte. Charles Villeneuve.
Oui, tout à l'heure, vous avez cité Hicham El Khaaraoui, qui, lui, a ce club, justement, mais qui poursuit une réflexion sur l'islamisme par rapport à l'islam, extrêmement intelligente, auquel moi j'adhère. C'est-à-dire que tous ceux d'entre nous qui sont nés dans les pays musulmans et qui ont été élevés en partie avec les musulmans ont très bien compris en venant en France que nous ne ferons absolument aucun progrès sur, si vous voulez, l'intégration dans l'esprit de tous ces jeunes Français musulmans des valeurs de la République si nous ne les concernons pas, si nous n'allons pas discuter avec eux de toute façon. Car s'ils ne sont pas concernés, ils ne vont pas adhérer. Et on sait que près de 70 à 80% de ces jeunes Français musulmans considèrent que la loi de l'islam est supérieure à celle de la République. Et c'est justement ce progrès que nous devons faire. Car si nous ne les concernons pas, ils n'adhéreront pas.
Bien. Merci à tous les trois. On se retrouve dans quelques secondes. Vous restez avec nous. On va parler d'un autre sujet. On va évoquer le bras de fer entre Emmanuel Macron et les soignants qui appellent, vous l'avez lu, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, un reconfinement peut-être national. Alors que faut-il en penser? On en parle avec nos débatteurs. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h48, la suite des Grandes Voix du lundi avec toujours Charles Villeneuve, Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, et l'historien Jean Garrigue. Alors, on va évoquer maintenant le bras de fer entre Emmanuel Macron et certains médecins. C'est vrai que la pression est forte sur l'exécutif. Depuis quelques jours, le président de la République fait face à l'appel des soignants à reconfiner. Et en même temps, la lassitude s'installe aussi dans l'opinion. Il faut prendre tout ça en compte. C'est une équation compliquée. On attend des décisions dans les prochains jours. Et ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, semblait n'écarter aucune hypothèse.
Mais toutes les options sont sur la table pour garantir la sécurité sanitaire des Français. On le sait tous, la seule solution, c'est la vaccination de masse. Et c'est dans cette course-là que nous sommes engagés, accélérer la vaccination, essayer de limiter le plus possible des mesures qui ont des conséquences sociales, morales, de long terme sur la nation française.
Oui, et a priori, pour l'instant, Charles Villeneuve, le président semble exclure un reconfinement national strict à ce jour, à cette date, à cette heure. On nous dit qu'il continuerait à privilégier l'idée de pousser les murs et de jouer la montre en accélérant la vaccination. On verra, car la vérité d'un jour n'est pas forcément celle de dans trois jours, mais à aujourd'hui, à date, comme on dit, c'est cette hypothèse qui est privilégiée.
Mais je crois que ce qui va consolider sa détermination justement de ne pas confiner tout le pays, c'est qu'un certain nombre de Français et quand même, il y en a près de 35 à 40 millions qui, pour l'instant, ne méritent pas, si j'ose dire, le confinement total. Il ne faut quand même pas les oublier, on n'en parle jamais. Évidemment, on a toujours du mal à parler du positif, les journalistes.
Il y a 19 départements qui sont aujourd'hui en confinement partiel. Et c'est vrai qu'il y a des départements, je regardais ce matin les chiffres, comme les Landes, où le taux d'incidence est à moins de 200. Alors qu'on est à plus de 600 en Île-de-France.
Mais aussi parce que, déjà cette semaine, arrivent 3 millions de vaccins qui sont quasiment là, un nombre de doses assez considérable, qui va faire que le pari de tenir le 15 avril les plus de 10 millions sera tenu. Et il est vraisemblable qu'on est sur une marche de deuxième cap au mois de mai, de 20 millions et 30 millions en juin. Et l'intervention, ce n'est pas anodin, l'intervention de Thierry Breton, qui lui, de toute façon, a été mobilisé le pour essayer de remuer les laboratoires pour que les livraisons se fassent réellement. Et je crois que c'est là-dessus qu'il va. Et il va faire face, d'ailleurs, son déplacement, je crois que c'est aujourd'hui, qui va à Créteil, à Mont-d'Or, qui est un vaste hôpital extrêmement valable, compliqué, tout ce qu'on veut. Je le connais un peu, c'est pour ça que je dis compliqué, parce que je m'y perds souvent. Et donc, il va, si vous voulez. Mais alors, je dirais qu'il y a un petit ennui quand même, un petit souci, je termine, c'est qu'au début, on a suivi scrupuleusement le conseil des scientifiques. Et là, on s'en écarte et on est plutôt sur une pente de contestation.
Oui. C'est vrai qu'il y a un bras de fer. Il y a clairement un bras de fer. Il y a cette tribune dans le journal du dimanche, Marion Mourgue. Il y a la nouvelle tribune aujourd'hui par 9 professionnels dans les pages du Monde qui lance un signal d'alerte en disant au gouvernement « Attention, prenez les décisions, mais nous allons devoir trier les patients. » Est-ce qu'elle est tenable, cette stratégie, sur le long terme ?
Sur le long terme, non, c'est une question de 48-72 heures avant que Emmanuel Macron, visiblement, reprenne des décisions. Tout son pari, c'est d'imaginer que la campagne de vaccination puisse aller presque plus vite que le développement des variants et que la saturation dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Mais cette course, elle est compliquée à tenir. Et c'est vrai que là, on a l'impression, surtout en Île-de-France, que ça se resserre de plus en plus. La question, c'est est-ce que mercredi, avec justement les chiffres qu'il aura, Emmanuel Macron, au moment du Conseil sanitaire,
en même temps, c'est compliqué de prendre la décision de façon unilatérale de confiner la France stricte comme au printemps dernier.
De toute façon,
même politiquement, c'est quasi impossible.
Pas de bonne solution, parce que sinon, s'il y en avait une, chaque pays européen l'aurait appliquée et Emmanuel Macron n'aurait pas hésité. Donc, c'est de toute façon très compliqué. C'est l'équilibre entre, évidemment, la santé psychique.
Chaque pays européen a joué sa stratégie quand même. Reconfinement plus strict au moment de Noël, plus souple chez nous, couvre-feu 18 heures, non-fermeture des écoles en France, fermeture des écoles en Grande-Bretagne, en Allemagne.
Personne n'a réussi
en Italie,
à éradiquer le virus.
N'a bien réussi. L'enjeu, et ça va se voir quand même à la fin, c'est celui qui en sortira le premier de cette période de confinement partiel ou total.
Oui, mais j'ai l'intuition que, de toute manière, on voit bien, y compris les difficultés aujourd'hui de la Grande-Bretagne pour la deuxième vaccination, toute solution, en tout cas européenne, je mets de côté ce qui s'est passé en Chine ou aux États-Unis ou en Israël, mais en Europe, on voit bien que toutes les solutions ont leur revers. Pour ce qui est d'Emmanuel Macron, à mon sens, il était prisonnier du pari du 29 janvier, du dogme de l'infaillibilité présidentielle, qui reste quand même quelque chose de très fort en France, c'est-à-dire qu'il est prisonnier de son pari, mais il n'est pas maître des horloges, il l'a lui-même avoué. Donc on voit bien que c'est une navigation à vue.
Il y a quand même un signal qu'a envoyé le président de la République jeudi soir, quand il dit « j'ai pas de mea culpa à faire, j'ai aucun remords, j'ai aucun constat d'échec, nous avons pris ». Quand il dit « nous », c'est en l'occurrence moi, président de la République et l'exécutif, la bonne décision.
C'est le dogme de l'infaillibilité présidentielle. Un président ne doit pas faire de mea culpa. Le général de Gaulle ne faisait pas de mea culpa.
Sauf Angela Merkel.
Voilà, parce qu'Angela Merkel n'est pas présidente.
Elle a été élevée par un pasteur protestant de l'Allemagne de l'Est. Elle a tout à fait une autre éducation sur le plan religieux.
La culture française est un peu différente de l'arrogance française.
C'est peut-être cette phrase qui sera reprochée à Emmanuel Macron, parce qu'à la limite, les Français comprennent qu'il est obligé d'évoluer dans sa prise de décision d'une semaine sur l'autre. Mais ce côté très catégorique, au moment où, vous l'avez bien rappelé, les scientifiques poussent derrière en disant « c'est urgent, c'est très alarmant la situation », c'est peut-être ce côté catégorique qui sera peu appréciée sur le long terme. En tout cas.
Oui, et puis il y a une situation qui est propre à l'Île-de-France, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Charles Villeneuve, aux Alpes-Maritimes, à la région Hauts-de-France, mais ça n'est pas la France. Ça n'est pas la France. Pour l'instant, il y a 22 millions de Français qui sont concernés par ces zones très très tendues, où il y a des embouteillages forts dans les services de réanimation, mais il reste deux tiers des Français derrière. Donc le confinement national, il est compliqué à décider en l'état actuel des
Absolument.
Choses.
Oui. Ouais. Il a répété quand même, j'ai pris des mesures proportionnées à la situation. Et je crois que c'est la raison pour laquelle je ne le vois pas changer de cap.
Oui.
Il faut rappeler quand même que quand il a décidé justement de résister à l'injonction des soignants, de M. Delfraissy, etc., Ça a été plutôt bien accueilli. On s'est dit, le politique reprend ses droits. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le politique, il est critiqué par les soignants, mais on n'est pas forcé d'aller dans le sens d'épouser totalement ce que nous disent les soignants.
Je vais finir par ce que vous venez de dire, Marion.
Oui, non, juste
les vacances.
Il y a les vacances.
Et vous pensez qu'elles peuvent être maintenues?
J'ai aucune information sur ce qu'Emmanuel Macron pourrait prendre, parce que je crois qu'il n'a pas encore choisi, mais... Est-ce que les vacances peuvent aussi introduire une sorte de transfert d'une région à l'autre? Et c'est quand même l'inquiétude. C'est-à-dire que, par exemple, les Parisiens aillent dans une autre région et amènent le virus. Oui. Donc, est-ce qu'il peut y avoir le choix d'un confinement pour éviter justement ce transfert d'une région à l'autre?
En tout cas, il est déjà là. Puisque,
mais sans plus
a priori, on n'a pas l'autorisation de sortir du département, des départements qui sont en zone rouge.
Vous savez qu'aujourd'hui, on est passé en deux mois de 100 millions de vaccinés pour toute la planète, à un demi-milliard, 552 millions. Avec les États-Unis en tête, 148 millions. Qui vont atteindre au mois de mai, de toute façon, l'immunité totale.
Ben voilà une bonne raison d'espérer. Merci Charles Villeneuve pour le chiffre du jour. Merci à vous. 18h56, on se retrouve dans quelques minutes avec le journal et puis le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on s'intéresse au phénomène, tiens, ça va vous intéresser Charles, des paris sportifs qui ont explosé avec les confinements et le couvre-feu. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.